Vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi est une émission sur le chômage et la précarité. Ce soir, une émission spéciale sur mai 68 sur fond de guerre au Vietnam, de troubles aux États-Unis et de manifestations un peu partout dans le monde. En effet, des centaines de milliers de jeunes sont descendus dans la rue, dans de nombreuses villes, de nombreux pays, pour dire non à la guerre au Vietnam, mais aussi pour remettre en cause les gouvernements autoritaires. Une génération qui aspire à plus de justice sociale, plus de paix, plus de liberté, et qui lutte contre la société de consommation et la répression policière.
Aux États-Unis, c'est le mouvement noir américain, mouvement des droits civiques, traversé par les courants féministes, les gays, les Black Panthers qui se soulèveront pour l'égalité des droits, l'obtention du droit de vote et lutter contre la ségrégation raciale. Manifestation très suivie, mais réprimée. Le chef de file de ce mouvement, Martin Luther King, qui a fait un rêve pour l'Amérique, sera assassiné le 4 avril 1968. Aux États-Unis, c'est la naissance du mouvement hippie, jeunesse libre, qui mélangera sexe et drogue et fera sitting dans plusieurs villes contre la guerre du Vietnam. L'assassinat du sénateur démocrate Bob Kennedy, 5 ans après l'assassinat de son frère John, président des États-Unis, marquera durablement la jeunesse américaine. En Italie, les étudiants dénoncent la raréfaction des débouchés professionnels et réussissent en janvier 1968 la jonction avec les syndicats ouvriers et mèneront de concert des grèves de solidarité autour de l'emploi et des conditions de travail. La protestation étudiante italienne est perçue comme une critique de la société technocratique et comme l'apparition d'une génération postmoderne. En Allemagne, c'est la consternation dans la jeunesse allemande, car elle prend conscience du trouble passé des plus anciens pendant la Seconde Guerre mondiale. Mon père était-il nazi ? Et ça discute ferme dans chaque foyer. La jeunesse allemande se soulève également, et la figure de proue du syndicat des étudiants socialistes allemands, Rudi Le Rouge, sera assassinée. Beaucoup d'autres pays seront concernés. Il y aura 300 morts au Mexique parmi les manifestants, et au Japon, la dernière plus grande grève fera plusieurs morts. Des syndicalistes sont assassinés au sabre par des briseurs de grève. Tous ces mouvements sociaux dans le monde seront aussi des déclencheurs pour les étudiants français qui se révolteront. Une insurrection qui finira en grève générale, la plus importante en nombre de notre histoire. 9 à 10 millions de grévistes sur 15 millions d'actifs. Et puis l'apothéose, les chars russes qui entrent à Prague pour écraser l'insurrection d'une jeunesse éprise de liberté. Ce sera la première fracture dans les partis communistes humanistes des pays de l'Ouest. De nombreux communistes déchireront leurs cartes. Je vous propose d'écouter maintenant un extrait d'un documentaire sur mai 68.
C'est le premier pavé de mai 68. D'un coup, le jeune homme fait mouche, le policier assis dans le car est atteint en plein visage. Il est 17h30, boulevard Saint-Michel, ce vendredi 3 mai. Autour, d'autres sont prêts à en découdre. Peu avant, à l'intérieur de la Sorbonne, un certain Cohn-Bendit et une centaine d'étudiants décident d'occuper la faculté. Craignant des incidents, le recteur appelle la police qui embarque tout le monde. La Sorbonne est évacuée.
Le régime gaulliste est un régime fasciste et réactionnaire.
Au quartier latin, la nouvelle se répand vite. Les forces de l'ordre croient s'en sortir en tapant dans le tas, mais surprise, les manifestants accusent le coup et contre-attaquent. Lundi 6 mai, Daniel Cohn-Bendit et 7 étudiants passent en conseil de discipline. Un quart d'heure plus tard, la police tente de disperser une manifestation de solidarité, en vain. Initiée le 22 mars à Nanterre, la crise universitaire tourne à l'émeute.
Je m'excuse de vous prendre la partie. Si vous aviez un garçon de 25 ans qui était allé à l'école de 15 à 25 ans... Qui vous...
Les négociateurs vont tenter de calmer le jeu.
Je vous demande de faire des lignes jusqu'au front pour qu'il n'y ait pas de débordement sur les côtés. C'est tout.
Vendredi 10 mai, tout est prêt pour un nouvel affrontement. Au soir commence la première nuit des barricades. 2h du matin, 6000 policiers reçoivent l'ordre d'attaquer. Les affrontements se poursuivent jusqu'à l'aube, des centaines de blessés de part et d'autre, près de 500 interpellations, et la désolation au cœur de la capitale. Le Premier ministre Georges Pompidou, de retour d'Afghanistan, fait alors des concessions.
J'ai décidé que la Sorbonne serait librement ouverte à partir de lundi.
Mais la révolte déborde du cadre étudiant. Les syndicats ouvriers prennent le relais. Lundi 13, image insolite, Georges Chégui presque au coude à coude avec Daniel Cohn-Bendit. Derrière, 300 000 manifestants, le plus gros défilé depuis la libération.
Nous avons affirmé plusieurs fois au cours de ces jours le caractère anticapitaliste, anti-bourgeois de notre lutte.
La Sorbonne est réoccupée par les étudiants. Pendant 3 semaines au cœur de Paris, elle sera l'emblème de la commune de Metz. Mardi 14 mai, les 2000 ouvriers de Sud Aviation près de Nantes votent une grève illimitée et occupent les locaux. Au même moment, de leur côté, les métallurgistes de Renault-Cléon près de Rouen débrayent.
Mais j'estime quand même qu'à 63 ans, je pourrais un peu me reposer et profiter un peu de la vie.
Avancement de l'âge à la retraite, amélioration, réduction des cadences.
En 2 jours, la France s'arrête, paralysée par le plus grand mouvement social depuis 36. Pour couronner le tout, l'Odéon est envahi par la foule. Pendant 1 mois, le théâtre se transforme en spectacle permanent.
Quelles sont les 4 ou 5 personnes de différentes tendances qui acceptent de venir se réunir maintenant en comité pendant 10 minutes pour décider du thème de la discussion?
L'histoire s'accélère. 3, 6, 10 millions de grévistes le 20 mai. Le pays est paralysé. Une décision du ministre de l'Intérieur, Christian Fouché, va de nouveau mobiliser une partie de la jeunesse. L'expulsion vers l'Allemagne de Daniel Cohn-Bendit en pleine crise sociale déclenche le 24 mai la 2e nuit des barricades. Ces images, mêlées au projet avorté de référendum proposé par le général de Gaulle, paraissent sonner le glas du régime. Mais c'est un trompe-l'œil. Certes, on relève 2 morts, l'un à Paris, l'autre à Lyon, mais ces carcasses de voitures, ces vitrines défoncées, ces arbres coupés vont retourner cette fois la France profonde contre les étudiants. Le lendemain, toutefois, l'homme du jour, celui vers lequel la gauche non communiste et une partie de la jeunesse paraît se tourner, c'est lui, Pierre Mendès France, l'ancien président du Conseil. Mais après le meeting de Charletti, Mendès, la figure de proue du PSU, refuse l'aventure politique. Croyant alors son heure arrivée, François Mitterrand, lui, se jette à l'eau.
Je propose qu'un gouvernement provisoire de transition et de gestion soit aussitôt mis en place.
C'est dans cette atmosphère trouble que de Gaulle disparaît quelques heures le 29 mai à Baden-Baden. Saisi par le vide politique, la France conservatrice va le soutenir massivement.
Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas.
500 000 manifestants sur les Champs-Élysées, après ce succès gaulliste et les accords de Grenelle qui prévoient d'importantes hausses de salaire, les travailleurs vont accepter la reprise. Le mouvement va s'effilocher pendant tout le mois de juin, malgré la mort de 2 métallos à Sochaux et celle d'un lycéen à Flins. Vendredi 14 juin, la messe est dite, l'Odéon est évacué dans l'indifférence générale. 2 semaines plus tard, les élections législatives consacreront le raz-de-marée gaulliste et une défaite humiliante pour la gauche. Épilogue douloureux pour ceux qui croyaient alors que la vie allait immédiatement changer, ils ne pouvaient pas se douter que leurs idées allaient faire leur chemin dans la société tout entière.
Grève illimitée, les portes se ferment, les piquets se forment. Grève illimitée, les bras fatigués, délaissent la chaîne, les tours sont muets. Grève illimitée, grève illimitée. Quand elle monte des usines, la colère, quand elle monte des usines, la colère, à la voix des machines. qu'un début. Tout s'immobilise, on parle de crise, ce n'est qu'un début. On marche beaucoup, Paris sans essence, dialogue partout, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Quand elle marche dans la rue, la colère, la colère. Quand elle marche dans la rue, la colère, la queue s'est pointue. La révolution, le mot est lâché en plein mois de mai. La révolution, entre les pavés, des fleurs vont pousser pour tous ceux qui font la révolution. La révolution. Quand elle unit des camarades, la colère, la colère. Quand elle unit des camarades, la colère monte en barricade. La Sorbonne libre, censier l'Odéon, partout l'amitié. La Sorbonne libre, ils nous ont chassés à coups de matraque, ils nous ont volé. La Sorbonne libre, la Sorbonne libre. Quand on bâillonne la colère, la colère, la colère. Quand on bâillonne la colère, elle fait le tour de la terre. Ce n'est qu'un début, on est toujours là, tenons le combat. Ce n'est qu'un début, nous avons le temps d'aller en prison. Nous avons 20 ans, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début, continuons le combat. Ce n'est qu'un début, continuons le combat. Ce n'est qu'un début, continuons le combat.
J'ai levé la main et j'ai demandé la parole. Et j'ai dit, je suis flic. Et j'ai des choses à dire.
Une foule qui pousse, c'est terrible.
Je voyais que je n'avais pas les moyens de faire face ou deux foyers d'émeutes.
Quand vous avez demandé l'autorisation de tirer la nuit du 13 mai, si vous l'aviez fait, est-ce que vous ne pensez pas que ça aurait pu emballer les choses, faire que les choses soient
faites? Ah non, non. Non, non. Oh ben non, non, les cartouches interdites. Non, non, les cartouches étaient restées à la caserne.
Et là, je réalise que d'un seul coup, peut-être que dans l'heure qui suit, je vais me retrouver sur les Champs-Élysées en train de tirer sur mon propre frère.
C'est, je crois, Pompidou qui a donné le mardi 28 mai l'ordre de rapprocher de Paris le régiment de tanks de blindés de Rambouillet.
On a eu beaucoup de blessés, nous.
Ah oui.
Pour une bonne quinzaine, pour moi. Il y en a un qui avait pris un caillou là, il avait l'œil qui lui sortait.
Et alors là, j'ai constaté ce que c'était que l'abaissement de l'État.
On entrait dans les ministères, il n'y avait plus personne, il n'y avait pas d'huissier. On entrait dans le bureau du ministre, il n'y avait personne. Les tiroirs étaient ouverts, les papiers partout. Enfin, on avait l'impression que l'État avait disparu.
Le téléphone sonne. Où est le général? Ce n'est pas possible que vous ne le sachiez pas. C'est un complot, les armées l'ont enlevé.
J'ai dit, mais où est-ce que je vais? Que deviendront mes enfants et ma femme? Enfin bon, il y a eu cette peur.
Des mains qui jouent de l'arc-en-ciel sur la guitare de la vie.
Les débuts difficiles, les chansons interdites. En 1968, il a presque tout connu, Léo Ferré. Et voilà que cet anticonformiste fait un tube, presque comme un banal chanteur de variété.
C'est extra. C'est extra.
Un Léo libertaire et libertin.
C'est extra. C'est extra.
C'est extra, l'une de ses œuvres les plus populaires.
Mai 68 fut une période de paroles libérées, où tout se dit, tout le temps et en tout lieu. On partage, on échange. Imaginons un instant ces lycéens et étudiants s'organiser, débattre, convaincre, occuper les lieux, envoyer des émissaires dans les autres lycées, facs, entreprises, usines, pour amener à eux les ouvriers et salariés. Tous se tiennent au courant et rappliquent en nombre quand les fachos d'Occident ou les gendarmes interviennent. Ça discute en bas des immeubles, les gens ne se connaissent pas, mais se disent bonjour et prennent des nouvelles de la dernière manifestation. Il y a une ferveur généralisée avec cet incroyable espoir qu'on va faire plier le gouvernement, qu'on va gagner, que le monde d'hier, qui sent la naphtaline, va devenir un monde plus juste, plus humain. Les étudiants et lycéens, crée des dizaines de commissions sur tous les sujets. C'est la renaissance du féminisme, avec l'action des lycéennes et étudiantes qui prennent une place très importante dans le mouvement. Mais 68 va être un accélérateur et un révélateur. La division sexuelle du travail militant, la dénonciation des revendications féministes, considérées comme bourgeoises, poussent les féministes à se démarquer des groupes d'extrême-gauche dont elles sont issues. Les étudiants dénoncent une oppression psychologique et sexuelle. Ils ne veulent plus être considérés comme des gamins. Vivre sans temps mort, jouir sans entrave, est le mot d'ordre des situationnistes, groupe révolutionnaire qui veut en finir avec la société de classe et la dictature de la marchandise. Guy Debord, Castoriadis, Lefebvre et Sartre en seront les chefs de file. À l'inverse des enseignants en sciences sociales, Greimas, Foucault, Lévi-Strauss, Lacan et d'autres verront dans mai 68 une remise en cause du structuralisme dont ils se réclament, une remise en cause de leurs travaux. Chez les enseignants, la guerre des idées fait rage à coups de tribunes. Dans le même temps, les étudiants débordent d'imagination et investissent les murs de la capitale. En leur donnant la parole, on pourra lire sur les murs de Sciences Po « Il est interdit d'interrompre, il est interdit d'interdire ». À l'école de médecine, Nanterre, Sorbonne, EHESS, on peut lire « Libérer l'expression ». Sous les pavés, la plage. L'aboutissement de toute pensée, c'est le pavé, CRS-SS. Les murs ont des oreilles, vos oreilles ont des murs. L'imagination prend le pouvoir. Plus de 200 graffitis, mots d'ordre, dessins, poèmes animeront les murs. Je vous propose maintenant d'écouter un extrait du documentaire « Le chômage a une histoire » de Gilles Balbastre.
Année 2000, année record du siècle pour la création d'emplois. Année record pour le recul du chômage. On n'y croyait plus, cela faisait si longtemps. Deux générations presque que le chiffre grimpait. De 250 000 en 1967 à la barre qui fut réellement fatidique des 3 millions en 1993. À la télévision, ce mal de la fin du XXe siècle a laissé toutes sortes de traces. Discours politiques, patronales, syndicales, reportages, documentaires, téléfilms et même shows grandiloquents. Revoir ces images, écouter les propos d'hier et d'aujourd'hui des acteurs de ce drame, c'est faire surgir les premiers éléments d'une histoire du chômage.
Dans le passé récent, nous ne connaissions pas le chômage, sauf en période de crise internationale généralisée, parce que nous n'étions pas une société industrielle moderne.
En ce mois de janvier 1967, le premier ministre de l'époque, Georges Pompidou, accorde une interview à la télévision française. La France d'alors ne compte que 250 000 chômeurs, et pourtant le premier ministre s'inquiète.
Nous sommes devenus une société industrielle moderne et nous sommes en train surtout de le devenir. À partir de ce moment-là, le progrès des techniques fait qu'il y a constamment des industries qui périclitent, fait que constamment la mécanisation transforme les usines en des sortes d'immenses laboratoires où il y a beaucoup moins d'ouvriers et beaucoup moins de machines et beaucoup plus de machines. Nous avons d'autre part des industries qui se concentrent, qui se fusionnent. Et elles le font pour améliorer leur productivité, c'est-à-dire pour diminuer le nombre d'emplois par rapport à leur production. Et nous avons enfin les classes nombreuses nées après la guerre qui arrivent sur le marché du travail. Et par conséquent, à partir de maintenant, nous devons considérer l'emploi comme un problème permanent. En permanence, il y aura en France un problème de l'emploi. En permanence, on devra veiller à ce que l'emploi soit assuré aux Français.
La vision de Pompidou était une vision à moyen terme. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec lui à l'époque, et il me disait, ce qui serait intolérable, ce serait 500 000 chômeurs. Nous aurions la révolution à 500 000 chômeurs.
L'inquiétude de Georges Pompidou se confirme tout au long de l'année 1967. Les vieilles régions industrielles comme les Vosges ou le Nord prennent de plein fouet le tournant de la modernisation. En l'espace de quelques mois, plus de 80 000 demandeurs d'emploi viennent grossir les statistiques du chômage.
Dans le Nord, ça va mal. La surprise, c'est que ça va plus mal qu'ailleurs. En 1967, le chômage a doublé dans la région Nord-Pas-de-Calais. 50 000 travailleurs maintenant. Chiffres officiels, le Nord, c'est 7% des travailleurs de France et 12% des chômeurs de France. C'est une surprise. Comment le Nord, cette région pilote, cette espèce de roue française, a-t-il pu en arriver là ?
Eh bien, simplement parce que les trois industries de base qui ont fait la richesse de cette région, le charbon, le textile, la sidérurgie, en font maintenant, sinon la pauvreté, du moins apporte la menace d'une décadence progressive.
Nous demandons qu'est-ce qui va remplacer les mines. Parce qu'une mine, elle occupe d'un quelquefois 800-900 bonhommes, tandis que vous avez des usines qui emploient 60-70 bonhommes. Et on se demande qu'est-ce qu'on va faire de nos enfants.
Il n'y a rien de prévu pour les gosses. Et qui c'est qui est responsable de tout ça? C'est bien de fermer les fosses, mais on aurait dû prévenir du boulot pour ces jeunes. On aurait dû implanter des usines tout partout. Qu'est-ce qu'on va faire? Je n'ai qu'au rat de saison, il va à l'école. Quand il va avoir l'âge de travailler, il n'y a rien pour lui.
On préfère laisser, pourtant, au fond des mines, du charbon. Mais on dit que ça va trop cher pour l'exploiter. Oh, on achète à l'étranger, c'est moins cher.
La perte de son emploi est une épreuve d'autant plus angoissante que le chômage est à l'époque peu protégé et mal indemnisé. Il n'existe que quelques centres de placement, ancêtres de la NPE, disséminés sur le territoire selon le bon vouloir du ministère du Travail.
En 67, nous étions déjà préoccupés par cette question de l'emploi. Et il faut dire que les relations sociales étaient quasiment inexistantes. Nous avions affaire à un gouvernement et un patronat qui se refusait systématiquement à toute rencontre avec les syndicats, et surtout avec la CGT, qui était victime de discrimination. Et l'effervescence sociale commençait à monter. Voilà pourquoi, devant cette situation, le pouvoir de cette époque a demandé les pleins pouvoirs en ayant la volonté de résoudre ou de répondre aux questions sociales par voie autoritaire, les ordonnances.
En mai 1967, le gouvernement, par l'intermédiaire de son jeune secrétaire d'État à l'emploi, Jacques Chirac, décide de créer un outil de placement moderne, l'Agence nationale pour l'emploi. Pour cela, il tente de passer en force au Parlement en employant la procédure des ordonnances, méthode qui consiste à faire voter par les députés une loi sans qu'ils en connaissent au préalable le contenu. La méthode peut surprendre, d'autant que l'Assemblée nationale est largement favorable au gouvernement Pompidou.
Monsieur le ministre, les premières ordonnances prises par le gouvernement en matière économique concernent l'emploi. Y avait-il donc urgence à prendre ces mesures?
Il y avait urgence dans la mesure où l'évolution démographique, l'évolution technologique et l'évolution économique, et notamment l'ouverture des frontières, ont conduit le gouvernement à penser que le nombre de demandeurs d'emploi était susceptible de s'accroître tout naturellement dans le cadre de des mutations de notre société industrielle dans les années à venir.
La parole est à M. Fontanet.
L'urgence de la procédure s'explique donc par l'ouverture du marché commun prévue le 1er juillet 1968. La suppression des barrières douanières précipite la France dans une concurrence qui bouleverse une économie encore largement subordonnée à l'État.
Je pense que nous avons à regretter l'absence d'un grand débat public. Franchement, est-il très sain pour l'opinion de présenter aujourd'hui le marché commun comme une sorte de père fouettard qui doit permettre de faire excuser un certain nombre de retards gouvernementaux d'hier et de forcer la main du Parlement d'aujourd'hui?
Le problème de la concurrence à l'intérieur du marché commun est un problème sérieux, est un problème grave. Seulement, ce que je souhaiterais pour ma part, c'est que ceux qui s'adressent comme vous-même, qui s'adressent aux industriels, aux commerçants, à ceux qui dirigent l'économie, au lieu de leur dire « ça va mal et c'est la faute du gouvernement », leur disent « vous avez pendant 50 ans vécu à l'abri de protections inadmissibles. Pendant 50 ans, vous étiez tranquille. Chacun produisait sa petite affaire sans savoir à quel prix de revient et la vendait tranquillement avec son petit bénéfice. Il y avait de bonnes frontières douanières, il n'y avait aucune concurrence et le client français était traité comme un client qui était obligé de payer ce qu'on lui donnait au prix qu'on demandait.
C'est à ce moment-là que, d'ailleurs avec un peu de tristesse, un certain nombre de chefs d'entreprise ont compris que d'autres avaient grande joie, mais ont compris qu'ils allaient devoir se battre avec leurs propres moyens, en espérant que l'État ne les gênerait pas trop d'ailleurs dans leurs tâches, et non plus dans une espèce de solidarité nationale qui avait ses côtés sympathiques, mais en même temps ses côtés frustrants et qui empêchait le développement économique.
Nous vivrons, et l'économie française, et les industriels et les commerçants français doivent vivre désormais dans la préoccupation permanente. Il s'agit de se dire qu'ils sont toujours menacés par la concurrence, qu'il faut toujours qu'ils fassent mieux, qu'il faut toujours qu'ils produisent à meilleur compte, qu'ils vendent la meilleure marchandise à meilleur prix, et que c'est ça la loi de la concurrence et la seule raison d'être du libéralisme. Car si ça n'est pas ça, je ne vois pas pourquoi on se livrerait à ce genre de spéculation et pourquoi on prendrait tous ces risques et tous ces dangers. Nous serons donc en risque permanent. Et le gouvernement en est parfaitement conscient. Son rôle est de diminuer ces risques parfois, mais son rôle n'est certainement pas d'inviter les gens à la paresse en leur créant de nouvelles protections.
Ils ont plusieurs trucs. Un de leurs derniers, c'est l'automation. Nous, on appelle ça accélération des cadences. Il y a 2 ans, je me rappelle, à l'étirage, je faisais 188 cops. Aujourd'hui, j'en ai fait 244.
L'ouverture des frontières menace non seulement des industries déclinantes, comme on l'a vu dans le Nord, mais elle engage le patronat dans une course à la productivité. La compétition internationale se traduit dans les ateliers par la montée des cadences. Une partie du monde ouvrier voit alors ses repères professionnels s'effondrer. L'importance du phénomène est telle qu'il n'échappe pas à la télévision de l'époque. L'ORTF y consacre même un téléfilm réalisé par Maurice Felvic.
Ah, c'est quand même pas normal que des gars comme toi soient obligés de se tirer. Ça peut pas être la solution.
C'est pas une solution, t'es marrant. T'en as une, toi, de solution ?
Bah, la solution...
Bah, tiens, t'as qu'à prendre ton histoire de machine et demande à Riton, les 2 vieux compagnons de l'atelier 14. Il y en a un qu'on a collé à classer les fiches et l'autre au magasin.
43 aussi.
Et encore parce qu'ils sont pas loin de la retraite.
Ah bah alors ?
Alors, j'ai pas envie d'attendre qu'une machine vienne me piquer mon boulot ou qu'on me l'ouvre.
Ah bah les autres ?
Bah, y a pas de mais. Mais oui. Dans mon école, je gagnerais peut-être moins qu'ici, d'accord. Mais je continuerai à faire mon boulot.
Mais oui, il a raison.
D'accord. Mais suppose que tous les professionnels deviennent des professeurs techniques adjoints. Alors, tu vois bien que ça peut pas être ça la solution.
Peut-être raison, mais qu'est-ce que tu veux ? Moi, j'en vois pas d'autre. Tiens, ton fils, tu vas pousser dans la mécanique. Moi, je te dis, je suis pas sûr que le mien fasse autre chose. Pourtant, quand j'ai les mots, il y a que ça qui m'emballait. Oh non, tout mais pas ça. C'est vrai, c'est plus du boulot, quoi. T'as toujours quelqu'un sur le doigt t'asticoter pour faire ça en une heure, faire ça en une demi-heure, faire ça en 5 minutes, faire ça comme ci, comme ça. Merde, je connais mon boulot, je dois bien les voir sur la bécane. Alors, si le boulot est mal fait, ils s'en foutent. Alors, ça, je peux pas l'encaisser.
Justement.
Justement quoi ?
Il doit bien avoir une solution.
Ouais, mais faut la trouver.
La grève avec occupation d'usine est adoptée à l'unanimité, moins une voix.
Le travailleur manuel, intellectuel et la population exigent la satisfaction de leurs revendications.
Augmentation générale des salaires.
Cette période pleine d'incertitudes va finalement déboucher sur la crise de mai 68. Autant qu'une révolte étudiante, 68 est aussi avant tout une révolte ouvrière. Quelques 9 millions de salariés en grève poussent le gouvernement et le patronat à négocier au ministère des Affaires sociales, rue de Grenelle.
Il y avait les questions qui touchaient au salaire en premier lieu, et tout ce qui touchait à la réglementation du travail, aux qualifications dans différentes professions, la reconnaissance de la qualification professionnelle, la suppression des inégalités, les discriminations salariales entre les jeunes, le travail féminin aussi. Tout cela est venu en priorité dans la négociation. Mais nous avons toujours, tout de même, je le répète, mis en avant les questions de l'emploi au travers de la réduction de la durée du travail et de l'avancement de l'âge ouvrant droit à la retraite, car nous sentions bien qu'il allait y avoir, de ce point de vue, beaucoup à faire par la suite.
Lorsqu'on a présenté les décisions prises en mai 68 comme ayant conduit à des conséquences économiques tout à fait néfastes, en fait, on s'est complètement trompé. On peut dater de mai 1968 et de Grenelle, par la distribution de pouvoir d'achat à laquelle on a procédé, une sorte de renaissance de la croissance en France qui a duré jusqu'à la fin de 1973.
Les hausses spectaculaires du SMIC, des salaires et des prestations sociales vont entraîner une croissance non moins spectaculaire de 5 à 6% par an. En revanche, les accords de Grenelle ne règlent pas l'antagonisme entre le patronat et une partie de la classe ouvrière. La forte croissance que connaît l'économie française a même tendance à multiplier les conflits.
Taxes diverses sont de plus en plus lourdes.
Nous avions le sentiment très vif des dégâts commis par 68, en particulier dans les rapports sociaux. Il y a un vide qui s'était installé. Le premier problème qui nous paraissait devoir être résolu, c'est de retisser des liens avec les organisations syndicales.
Une grande partie de la classe ouvrière renforce les syndicats CGT et CFDT dans un rapport de lutte des classes avec le patronat. La télévision, pourtant soumise à une censure du pouvoir politique, s'ouvre à ce radicalisme, comme dans le cas de ce « À armes égales » d'octobre 70.
La branche a cru dompter ses feuilles, mais l'arbre éclate de colère. Ce soir que montent les clameurs, le vent a des souffles nouveaux au royaume de France. Le peintre est monté sur les pierres, on l'a jeté par la frontière. Je crois qu'il s'appelait Julio. Tout le monde ne peut pas s'appeler Pablo au royaume de France. Et le sang des gars de Nanterre a fait l'amour avec la terre et fait fleurir les oripeaux. Le sang est couleur du drapeau au royaume de France. Et plus on viole la Sorbonne, plus Sochaux ressemble à Charonne, plus Beaujon ressemble à Dachau, et moins nous courberons le dos au royaume de France. Perché sur une barricade, l'oiseau chantait sous les grenades, son chant de folie était beau, et fou les enfants de Rimbaud au royaume de France. La branche a cru dompter ses feuilles, mais elle emportera le deuil, et l'emportera au tombeau. L'automne ne fera pas de cadeau au royaume de France. C'était Jean-Michel Karadec.
Des grèves historiques. Les ouvriers sont près de 10 millions à faire la grève en 1968. Chez les hommes, ils représentent la moitié des salariés. Et un quart des femmes sont des ouvrières. Jamais le pays n'avait connu un tel mouvement. On défile dans les plus petites villes. Pris de court, des syndicats tentent d'encadrer les luttes. Les ouvriers refusent les cadences trop élevées, le cloisonnement, le salaire au rendement. Ils veulent une augmentation de salaire et une réduction du temps de travail. Le travail des syndicats, les intersyndicales et les étudiants est remarquable, tant dans la circulation de l'information que dans l'organisation des luttes, prise de parole, distribution de tracts, occupation des sites 24 heures sur 24, organisation du ravitaillement, ceux qui font les sandwichs et qui préparent les paillasses pour la nuit. Leur idéal se rapproche d'une certaine idée du travail artisanal, comme le montrent les changements introduits dans les processus de production lorsque les ouvriers mettent en œuvre l'autogestion. À Paris, le 13 mai, un défilé de 800 000 personnes conspue le régime gaulliste. Les grèves durent, les patrons sont inquiets. Le gouvernement est pressé de négocier. Les accords de Grenelle conclus fin mai à une augmentation générale des salaires de 10%, 35% pour le SMIC et la création de la section syndicale d'entreprise.
au lycée technique d'Orient, dans le 11e, fut organisé pour les élèves la semaine dernière un débat sur mai 68, avec comme intervenant Jean-Louis, qui était ouvrier en 1968, et Jean-Michel, étudiant à Nanterre. Il y avait là 80 élèves avec quelques enseignants. Je fus agréablement surpris par la pertinence des questions des élèves et par leur maturité. J'en profite pour remercier Denis, prof d'histoire qui organisa ce débat, Yasmine qui m'en a parlé et qui m'a prêté sa voix pour cette émission, et M. Grua, proviseur, qui me permit d'y participer en tant qu'extérieur.
J'étais en classe prépa, j'étais en même temps à Nanterre et en classe préparatoire dans un lycée à Porte-Clichy, le lycée Balzac, si ça vous dit quelque chose. Je le dis parce que le lycée Balzac, c'était un des très rares lycées mixtes. Parce qu'on a parlé de ce côté vieillot, poussiéreux de la France de l'époque. Imaginez, c'était impensable qu'il y ait des garçons et des filles dans le même lycée. La morale en aurait pris un vieux coup. Et ça, De Gaulle, il y tenait vachement à la morale. Imaginez, vous rentriez au bahut, vous aviez les surveillants qui étaient là, le surveillant général, enfin maintenant ça s'appelle différemment, mais vous comprenez de quoi je parle. Et si vous aviez les cheveux un peu trop longs, on vous renvoyait chez vous, on vous disait, passe chez le coiffeur, tu seras repris qu'après. Bon, on vous voyait avec une fille, vous chopiez deux jours d'exclusion. Bon, c'était une ambiance qui n'était pas vraiment marrante. Hein, et pour ce qui concernait les étudiants, qui avaient l'impression qu'ils étaient rentrés dans la vie adulte, eh ben, à Nanterre en particulier, il y avait un problème. C'est que Nanterre, c'était la première fac en région parisienne qui était hors Paris. Elle était dans un coin, on ne savait pas trop où, c'était loin, c'était la banlieue, c'était la zone. Nanterre, ça va être jusqu'en 1974 le plus grand bidonville de France. Il y avait jusqu'à près de 100 000 personnes qui habitaient là-dedans, qui étaient passées. C'était des Maghrébins, essentiellement des Algériens, des Portugais, qui construisaient les maisons, les immeubles, mais eux, ils avaient le droit d'habiter que dans des taudis. Alors, les étudiants, on les avait foutus là-bas, hein, parce que le nombre d'étudiants avait augmenté, il fallait trouver des terrains pas chers. Nanterre, c'était bien à côté du bidonville, c'était pas trop cher. Donc on avait construit cette fac là-bas, qui était isolée de tout, et qui avait une station de train qui marchait quand on en avait envie, qui s'appelait, d'ailleurs c'est rigolo, La Folie. Ça allait bientôt être la folie à Nanterre. À Nanterre, ça a démarré, entre autres, il était interdit aux garçons d'aller dans les résidences universitaires des filles, et réciproquement. Et il y avait eu des manifs pour protester sur le campus. Il y avait aussi pas mal d'étudiants qui étaient politisés ou qui se sentaient en sympathie avec des mouvements de protestation, et entre autres, qui se sentaient solidaires du peuple vietnamien, qui se défendait contre la plus grande puissance au monde, l'Amérique. La France avait déjà mené une sale guerre au Vietnam et avait été battue avec la défaite de Dien Bien Phu. Les Américains avaient pris la relève et ils continuaient. Ils balançaient des bonbons napalm, l'agent orange continue encore à polluer faune et la flore vietnamienne, et puis surtout faire des dégâts dans la population. Et puis les Vietnamiens, ils tenaient le coup. Et je peux vous dire, ça enthousiasmait beaucoup de jeunes en Amérique et ailleurs de voir que la plus grande puissance au monde, elle était tenue en échec. Et par un petit peuple qui baissait pas les bras, qui avait déjà foutu la branlée aux Français et qui s'apprêtait à la flanquer aux Américains. Bon, ça faisait plaisir. Il y a eu des manifestations, le pouvoir gaulliste a envoyé plus de flics, il y a eu des arrestations, il y a eu des manifestations de protestation pour demander la libération des étudiants arrêtés. Toutes les facs, pratiquement, se sont mises en grève, et par solidarité, les lycées aussi. En plus, il faisait beau, ce qui ne gâtait rien, c'était bien, il y avait la proximité des examens, bon, on avait envie aussi de faire autre chose. Hein. Bon, ça... Vous pouvez comprendre ça aussi. Donc, je vous disais, j'étais à Nanterre, mais j'étais aussi en classe préparatoire dans un lycée, au lycée Balzac. Et ben, je suis monté sur un pilier à l'entrée du lycée, et puis j'ai dit aux lycéens qui étaient là, et aux étudiants des classes prépa, voilà, les facs, on est en grève, on proteste contre la répression. Le bahut, on ferme, on occupe, bon voilà. Et puis c'était un hourra, voilà. Et le lycée Balzac a été occupé comme ça. Tous les bahuts étaient occupés, les facs aussi. Hein. Là, on est le 24 mai. Le 24 mai, la grève s'était étendue, avait été effective, était devenue une grève générale sans que personne n'y ait appelé. Ça, c'est un fait. J'habitais Saint-Ouen. Le 10 mai, il y a eu la nuit des barricades au quartier latin. Bon, j'y étais avec mon petit frère, qui avait un an de moins que moi. Quand on est rentré au petit matin, parce que bon, ça a duré les bagarres avec les CRS toute la nuit, bon, on habitait dans une cité à la porte de Clignancourt. Il y a des gens qui étaient là et qui tout de suite nous ont demandé « Mais comment ça s'est passé ? C'est bien, on a écouté à la radio. » À l'époque, il y avait différentes radios, il y avait les radios d'État qui étaient contrôlées par le pouvoir gaulliste, alors qu'ils ne transmettaient que ce que le pouvoir voulait laisser entendre. Et puis, il y avait des radios comme RTL, Europe, qui écoutaient, en particulier mes parents, qui avaient la réputation d'être moins contrôlées parce qu'elles dépendaient soit d'États différents de la France, soit d'entreprises privées. Et les gens, toute la nuit, ils avaient été collés à leur radio, à écouter ce qui se passait, et étaient bien contents que les étudiants, ils aient tenu le coup, et ils aient tenu en échec la police.
Alors, bon, bah oui, moi, en 68, j'avais 23 ans, et je travaillais dans une boîte de chimie qui n'existe plus, c'est Roussel-Luclaf. C'était à Romainville, le bas pays, il reste les bâtiments, des bâtiments immenses, mais qui sont vides. Le personnel, les produits, tout a été décentralisé, et maintenant, c'est Sanofi. Vous devez connaître de nom. Alors cette entreprise, il y avait 3300 salariés. C'est une grosse boîte pour le 93, pour le coin. C'est une boîte dégueulasse. C'était des conditionneuses sur chaîne et des ouvriers de fabrication en équipe. Il y a eu des mouvements d'étudiants à partir du début mai. Et le 3 ou 4 mai, il y a eu des bagarres au quartier latin. Il y a eu 4 étudiants qui ont été arrêtés, qui ont été condamnés à 6 mois de prison ferme et des amendes. Et dans les 4, en réalité, il y avait un salarié. Tous les histoires disent 4 étudiants. Il y avait un salarié de ma boîte, un jeune technicien. Enfin, bon, c'était presque pareil. Et ça a fait de l'émotion quand même à la boîte. D'ailleurs, les syndicats, on a fait. Moi, j'étais syndiqué, j'étais délégué déjà. Et on a fait une pétition, une lettre pour envoyer au préfet pour demander la libération, bien sûr. Alors, dans les événements, le copain a dit, le 10 mai, il y a eu ce qu'on appelle la nuit des barricades. C'était la Sorbonne était occupée par les flics. Donc, il y a eu beaucoup de bagarres. Des barricades qui ont été montées pour se défendre de la police, ce n'étaient pas des barricades. Et il y a eu beaucoup de répression. La population a été au courant grâce aux radios, les transistors, ben, plein de gens ont été au courant. Et ça a fait de l'indignation beaucoup dans la population. Durant le week-end, les syndicats et les partis de gauche ont appelé à manifester le lundi 13 mai, un lundi. Et c'est là, il y a eu, on ne sait pas combien de personnes, mais. On dit 1 800 000, j'en sais rien. Enfin, c'est une manif qui a duré toute une journée, toute une nuit. Alors, à la boîte, nous, on a les syndicats, on a appelé à aller à cette manif qui partait Gare de l'Est, je crois. Et on a été 200-300 à y aller de la boîte. C'était une boîte, oui, c'était pas combatif. C'était une boîte très paternaliste, assez, paternaliste et répressive, le patron anti-syndicat. Et on a été 200-300 à y aller, voilà. Et puis après, ben, on a repris le boulot pendant toute la semaine. Ça discutait, comme dans tout le copain l'a dit, dans tout le pays, tout le monde parlait. De tout, tout le monde parlait. C'était la parole libérée. Mais durant toute la semaine, on n'a rien fait de spécial à part parler. Et puis quand même, à la fin de la semaine, comme les boîtes se mettaient en grève et occupées au fur et à mesure, ben, on disait, et nous, ben, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien. Bon. Alors, en fin de compte, on a décidé d'appeler à la grève le lundi 20 mai, vous voyez, au bout d'une semaine. Et puis, bon, alors, il y a eu un appel intersyndical, mais en réalité, le matin, quand on est venu à 6h du matin, on n'était pas nombreux. Mais même à pas nombreux, il y avait 6 portes, c'était une grosse usine, même à 2 ou 3 par porte, on s'est mis devant, on a distribué le tract, et on a dit aux gens, faut pas rentrer, parce qu'on va faire une AG pour décider de la grève. Et les gens ne rentraient pas. Mais il y avait un climat. Il y avait un climat, un ras-le-bol contre De Gaulle, les coups. Comme disait le copain, un des mots d'ordre de la manif du 13 mai, c'était « 10 ans, ça suffit, ça fait 10 ans qu'il est au pouvoir ». Alors ça fait qu'on a appelé à la grève, les 1500 personnes qui s'étaient arrêtées, qui n'étaient pas rentrées, ils ont voté la grève, à part quelques-uns. Et puis dans la foulée, on a appelé à créer un comité de grève pour diriger la grève. Et il y a une cinquantaine de volontaires qui se sont proposés de différents services et il a été voté un comité de grève. Alors là, ça fait un petit problème parce que des syndicalistes, ils n'étaient pas d'accord pour que la grève soit dirigée par un comité de grève, par des représentants des grévistes. Ils étaient pour que ce soit les syndicats, eux, les délégués qui dirigent. Voilà. Et, voilà. Alors ça fait qu'il y en a une partie des délégués qui se sont mis à part, qui ont été occupés des trucs. Mais la grève, là, cette grève, dans la boîte où j'étais, où c'est Luclaf, qui a été très active et occupée par des centaines et des centaines de salariés, elle a été dirigée par un comité de grève, et on était environ 50. Mais dans le comité de grève, il y avait des délégués, il y avait aussi des syndicalistes, vous voyez. Mais il y avait des gens qui étaient ni syndiqués et tout, mais qui parlaient des grévistes, voilà. Alors, l'habitude, c'était le matin, il y avait l'AG générale où les gens votaient pour continuer sur les revendications, pour continuer la grève et tout. Et puis l'après-midi, il y avait la réunion du comité de grève pour décider d'un tas de choses pratiques. Parce que occuper une usine de chimie, pharmacie comme ça, il y avait plein de problèmes pratiques à régler. Ne serait-ce que dans une usine comme ça, il y avait des milliers d'animaux, des souris, des lapins. Il fallait les nourrir, il fallait les nettoyer les cages, on ne pouvait pas les abandonner quand même. C'était une usine de fermentation, donc il fallait surveiller, il y a des tas de problèmes de sécurité à surveiller, parce que s'il y avait des fuites ou si vous mettiez des trucs à l'égout, toute la région était polluée. Hein. On a eu aussi, c'est des problèmes matériels, on a eu énormément, il y avait des centaines d'occupants, il fallait bien qu'ils mangent. Donc il y avait plein de choses organisées. Il y avait les piquets de grève 24 heures sur 24 assurés, parce que la direction, bien sûr, ne restait pas inactive, elle mobilisait des cadres, elle mobilisait du monde pour essayer de reprendre l'usine. Voilà. Et les flics, bien sûr, qui sont venus plusieurs fois. On a eu des problèmes pratiques avec du personnel. Dans cette boîte de 3300, il y avait environ 300 cadres. Et comme c'était une boîte paternaliste et anti-syndicale, les 300 cadres, ce n'était pas spécialement ce qu'il y avait de plus social. C'était...
Œil pour œil, bouche à bouche, comme on baise, on se couche. L'avenir est un nègre, et c'est pas au vinaigre qu'on prend les bateaux mouches. Vivre est un train aveugle et ses voyageurs beuglent dans les wagons de queue. Et mes frères les bœufs, il serait temps qu'on meugle. Ainsi parla Saint-Max en embouchant son saxe à deux ou trois terrasses, à trois ou quatre bières, d'où Saint-Michel terrasse un grand diable de pierre. C'est facile d'aller loin, c'est partir qui est pas rien. Y a du vin sur la planche pour traverser la Manche dans un verre de rouquin. Il est déjà trop tard pour s'appeler Mozart. Il est encore trop tôt pour s'appeler Artaud. Le génie, c'est bizarre. Ainsi parla Saint-Max en embouchant son saxe à deux ou trois terrasses, à trois ou quatre bières, d'où Saint-Michel terrasse un grand diable de pierre. Les ponts vont au troupeau et sous le Mirabeau coulent des hydrocarbures, tout le monde en voiture. Paris, c'est un crapaud. Elle est bronzée, ma belle, si Jean-Marie Martel arrête pas les martiens, avant demain matin, elle sera arc-en-ciel. Ainsi parla Saint-Max, en embouchant son saxe, à deux ou trois terrasses, à trois ou quatre bières, d'où Saint-Michel terrasse un grand diable de pierre. Moi ça va, c'est la terre qui a mal à sa molaire, qui a perdu son cure-dent au fond de la boîte à gants des cours humanitaires. Quand on dort, on est vieux, pour moi ça gazera mieux, quand je serai devenu du gaz, quand je serai devenu du jazz, dans le sax du bon Dieu. Ainsi s'endormit Max, à cheval sur son sax, à deux ou trois terrasses, à trois ou quatre bières, d'où
Saint-Michel terrasse, un grand diable de pierre.
Bonjour messieurs, tout d'abord merci pour l'interview que vous venez de donner. Et j'aurais une question, est-ce qu'on peut comparer les manifestations que vous avez décrites aux manifestations qui ont lieu aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui en été, on parle beaucoup de mai 68, mais est-ce que c'est à cause des manifestations ou c'est juste parce que c'est un souvenir, un rappel?
J'aimerais revenir sur quelque chose qui est apparu dans les différentes interventions, c'est le fait que majoritairement, on va dire les gens de gauche espéraient gagner les élections, puisque ça bougeait bien, le général était mal en point, etc. Et bing, et on passe aux élections en juin, là on est en mai, en juin, élections législatives, et la droite reprend le dessus, le général reprend la main, avec une majorité absolue. Est-ce qu'on peut expliquer à nos jeunes esprits pourquoi?
Bonjour. Moi j'aurais aimé avoir plus d'éclaircissement en fait, sur les acquis de tout ça. Certes le gouvernement, mais les acquis, parce qu'on entend un mouvement de la jeunesse, que notre jeunesse entend, mais on a hérité de quoi? On a hérité de beaucoup de choses.
Moi, simplement sur les acquis de 68, bon, moi je vais dire quelque chose, j'étais pas né en 68, mais, non. Mais en tout cas, jusque dans les années 80, 1980, quand ma génération devenait adolescente, pas tous bien sûr, mais un certain nombre, avaient eu la démonstration par nos parents, quels que soient les choix qu'avaient fait nos parents en 68, enfin, mon père, moi, était gréviste dans la métallurgie, son salaire avait doublé. Et donc ça, il m'avait expliqué. Et ce climat-là, familial, hein, ou plus général dans des villes ouvrières, il valait bien des questions, bien des lectures, bien des discussions, des lectures, si vous voulez. C'est-à-dire que la conviction que la société pouvait changer, et notamment par le rôle que les salariés jouaient dans la société, paraissait naturel. Aujourd'hui, quand on... c'est ce que disait Jean-Michel, aujourd'hui, bah, on connaît tous hein, l'expression « premier de cordée », on nous l'assène, on l'entend quasiment tous les jours, et dans nos têtes, le premier de cordée, bah, c'est effectivement le cadre supérieur, le PDG, enfin celui qui a fait des études ou qui a des moyens. Bon. Eh bien, dans les années 80, pour toute une jeunesse qui avait, je sais pas, entre 15 et 20 ans dans les années 80, il y avait encore ce souvenir de mai 68 qui avait fait la démonstration inverse, c'est que quand on était un salarié, ben, avec ses camarades de travail, évidemment, on pouvait peser. Et ça c'était un acquis qui s'est prolongé jusque dans les années 80, qui a un peu disparu aujourd'hui. Maintenant, il faut le réexpliquer à un certain niveau. Et puis sur la victoire de la droite, il y avait aussi le fait que, justement, dans le pays, on ne peut pas le compter vraiment, mais c'était plusieurs millions d'hommes et de femmes qui s'étaient battus, c'était la majorité des travailleurs de ce pays, mais il y avait aussi toute une fraction de la population qui, soit se sentait attachée à la conservation du monde tel qu'il est, hein, des gens qui ont des intérêts à sa conservation, qui croient en avoir, mais tout le monde vote aussi, hein, tous ceux qui n'étaient pas dans la rue... les CRS eux-mêmes qui cognaient sur les étudiants avaient le droit de vote. Hein, voilà, c'est pas forcément le suffrage universel qui
mais
permet.
Mais pas les étudiants.
Oui, d'ailleurs, je le dis entre parenthèses, le droit de vote à l'époque, en 68, était de 21 ans.
En fait, c'était juste pour savoir comment est-ce qu'on peut. Enfin, vous avez expliqué comment en mai 68, il y a eu toute une. Qui s'est levée et qui s'est battue. Et comment est-ce que on peut expliquer la mobilisation un peu faible d'aujourd'hui face à un gouvernement qui continue à supprimer des postes de fonctionnaires, qui veut privatiser la SNCF? Comment est-ce qu'on peut expliquer que la mobilisation elle soit pas aussi forte qu'avant, alors que dans le fond, je pense qu'il y a autant de gens qui sont contre le gouvernement, mais voilà, il n'y a pas de... Enfin, les manifestations sont pas aussi impressionnantes.
Je voulais dire par rapport à la question aujourd'hui. Bon, déjà, c'est pas évidemment, on n'est pas du tout dans la même situation que ce qui a été décrit. Bon, cela dit, rien qu'à l'échelle du lycée, par exemple, quand il y a eu les deux collègues, là, il y a Rachid là, qui est reparti à l'entrée, mais sans notre mobilisation au mois de novembre, Rachid, il sera à Pôle emploi. les lycéens ils sont mobilisés ainsi que les personnels. Il y a eu, vous avez fait assemblée générale, vous étiez 200, nous on était une cinquantaine à aller ensemble dire au rectorat qu'il n'était pas question qu'on perde les emplois de Rachid et Caroline. Et puis. Et la radio, voilà, qui a relayé. Bon, et ça a permis cette solidarité-là de gagner. Bon, et ça prouve que, bon, il y a des. Dans la situation même aujourd'hui, qui est évidemment pas comparable, il y a tout un tas de valeurs de solidarité. Moi, j'étais aussi. Pas connu 68, mais la période qui a suivi. Et quand j'avais votre âge au lycée, moi, ce qui m'a frappé par rapport à aujourd'hui, c'est le fait qu'il y avait des valeurs de solidarité évidentes. Par exemple, au lycée, moi j'étais lycéen à Bondy, il était quasiment pas possible de trouver quelqu'un qui faisait une réflexion raciste. C'était même impensable.
Il est toujours très difficile devant la masse de documents, sonores, visuels ou papier, de faire des choix, de synthétiser, de réduire en une heure, deux mois de lutte. Mais l'important, et ce qui fait sens, c'est de ne pas oublier, de reproduire et de transmettre. Voilà, cette émission se termine, je vous remercie de l'avoir écoutée. Restez vigilants, insoumis et surtout, surtout, ne lâchez rien. Gros bisous aux filles et poignement aux garçons. Ciao.
Oh, mon amour, mon fils unique, chante une femme en Amérique. Chante en Amérique une femme à son garçon mort au Vietnam. Chante une femme à son petit, dors mon amour, dors mon chéri. J'irai à la place où tu dors, t'y bercerai jusqu'à ma mort. Je t'apporterai des cadeaux, ton vieux train et ton mécano, et l'étoile en papier d'argent. Dors mon amour, dors mon enfant. Chante une femme en Amérique, sur l'autre bord du Pacifique. Une mère au petit matin réveille l'enfant vietnamien. Debout mon fils, debout garçon, j'entends revenir les avions. Il faut reprendre nos bagages, on va faire un petit voyage. Surtout ne lâche pas ma main, on va courir très loin, très loin. Toi tu portes ton oiseau gris, moi les couvertures. Et le riz. Dans son fauteuil diplomatique, à Washington en Amérique, je dois rentrer dans mon argent, déclare Monsieur le Président. Et sur la carte du Vietnam, comme un monsieur qui joue aux dames, il fixe les bombardements et la marche des régiments. Il pose son doigt sur un point courant, ne lâche pas ma main. Il a posé son doigt ici, dors mon garçon, dors mon petit. Dors mon amour, mon fils unique, chante. Une femme en Amérique, chante en Amérique une femme, à son garçon mort au Vietnam.